Ce soir, on verra qu'un poisson bien pêché peut vous rapporter une princesse, et que vous devriez éviter d'écouter votre mère quand elle vous dit de tout partager avec vos frères. La créature du soir est un cheval fantôme qui a beaucoup de mal à toucher ses pieds. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 56, 12 ans d'exil, où on reprend l'épopée du Mahabharata où on l'avait laissé. Je vous conseille de bien vous remettre l'épisode précédent en tête si vous voulez comprendre les détails, mais l'histoire d'aujourd'hui se tient aussi d'elle-même. Pour les grandes lignes, le Mahabharata raconte l'histoire de la dynastie lunaire des Bharata, et plus en détail, la lutte entre les fils du grand roi Pandu, les Pandava, et leurs 100 cousins, fils de leur oncle Dhritarashtra, et menés par leur aîné Duryodhana. La dernière fois, on avait laissé les Pandava dans la forêt, après que leur cousin ait tenté de les faire périr dans un incendie. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis l'incendie de la maison de Lac. Par peur de croiser des espions de leur cousin Duryodhana, les 5 Pandava et leur mère s'étaient enfoncés profondément dans la jungle, déguisés en brahmanes errants. Ils n'avaient rien pris le temps d'emmener avec eux, et malgré leur habileté, ils peinaient à attraper du gibier de leurs seules mains nues. Élevés à la cour, ils n'avaient pas la moindre idée de quelle plante était comestible ou non, et la faim commençait à cruellement s'ajouter à la fatigue. Dans leur épuisement, ils ne remarquèrent pas les arbres déracinés, les profondes griffures sur les troncs, l'absence d'oiseaux ou d'animaux des sous-bois. Ils avaient pénétré le territoire d'un démon. Celui-ci, nommé Hidimba, dormait dans une caverne proche de la clairière où les Pandava, à bout de force, s'arrêtèrent pour dormir un peu. Ses longs crocs qui sortaient en désordre de sa bouche, la fourrure noire qui couvrait son corps disproportionnellement musclé et les yeux de braise qui couvaient dans ses orbites ne permettaient pas de se tromper sur sa nature. À peine éveillé, il huma l'air et réveilla sa sœur Hidimba d'un coup de pied griffu.
« Debout, sœur, il y a des humains dans les environs. Va me les chercher et commence déjà à les désosser pour le dîner. Ne traîne pas, j'ai faim. »
Hidimba se secoua et se mit en route vers la clairière. Elle ressemblait en tout point à son frère, et son flair n'avait rien à envier au sien. Elle trouva les Pandava en quelques instants. Mais lorsqu'elle s'avança pour les tuer, son regard se posa sur le corps de Bhimasena, vêtu simplement d'écorce d'arbre. Sa peau d'or fondu, la puissante musculature de ses épaules et les longs cils noirs qui encadraient ses yeux clos, éveillèrent le cœur de femme de la démone. Envahie par le désir, elle oublia les ordres de son frère et se dirigea vers Bhimasena pour lui confesser son amour. Mais auparavant, elle souhaita revêtir les traits d'une belle jeune femme.
« Que fais-tu là, noble héros? Qui sont ces jeunes gens à l'allure de Dieu et cette dame au port princier qui a abandonné son palais? Vous ne savez donc pas que vous êtes sur le territoire d'un démon ? Si Hidimba vous trouve, vous ne verrez même pas la nuit tomber. Mais toi, ta beauté m'a séduite. Je ne veux d'autre mari que toi. Viens avec moi, et je te ferai découvrir des plaisirs qu'aucun mortel ne pourrait imaginer. »
Parle moins fort, étrangère. Ma mère et mes frères ont besoin de repos. Il serait bien méprisable, celui qui abandonnerait sa famille endormie à un tel danger pour s'enfuir avec une jeune femme. De toute façon, vois celui-ci. C'est mon frère aîné. Et il ne serait pas juste que je me marie avant lui. » Dans sa caverne, Hidimba, impatient, commençait à s'énerver. Avec un rugissement de rage, il sortit de la caverne.
« Entends, c'est mon frère qui arrive. » Dans quelques instants, vous serez tous morts. Il a la force d'un éléphant et brisera chacun de vos os. Toi, tu peux encore être sauvé. Viens avec moi.
Moins fort, Tejni. Laisse ma famille dormir. Quant à ton frère, s'il cherche à troubler leur sommeil, il me trouvera sur son chemin. Idimba allait le supplier une dernière fois. Mais son frère fit irruption dans la clairière, des flots de bave dégoulinant de sa bouche déformée par la rage. Quand il vit l'apparence qu'avait prise sa sœur, il comprit ce qu'il se passait.
« Qu'est-ce que c'est, sœur? Non seulement tu traînes à suivre mes ordres, mais en plus tu joues avec la nourriture. Attends que j'ai fini avec eux, tu vas voir. »
Il s'élança, mais Bhimasena fut tout aussi rapide et le rencontra à mi-chemin, en serrant son bras tendu dans une poigne terrible.
« Moins fort, démon. Laisse dormir ma famille. Et qui crois-tu être pour menacer une femme en ma présence ?»
Bhimasena referma l'étau de ses bras sur le démon et l'entraîna rouler au sol. La lutte était formidable. Les combattants arrachaient les arbres sur leur chemin et s'assénaient des coups dont l'écho résonna à des kilomètres à la ronde. Les Pandavas s'éveillèrent et entourèrent leur mère aussitôt, avant de comprendre ce qu'il se passait. Par respect pour leur frère, aucun ne se joignit au combat, mais ils attendirent anxieusement durant les longues heures qu'il dura. Finalement, alors que le soleil descendait dans le ciel, Yudhishthira lança à son cadet. « Bhimasena, il est temps de clore cet affrontement. Le soleil se couchera bientôt. Sous la lune, les forces de ce démon seront décuplées. » Bhimasena appela alors en lui toute la force que déploie Vayu, le dieu du vent, lors de la destruction du monde. Il attrapa à la cheville Idimba, qui bondissait vers lui, le fit tournoyer 100 fois au-dessus de sa tête et le fracassa au sol dans un coup qui brisa tous les os du démon. Son adversaire enfin terrassé, Bhimasena prit le temps de saluer sa mère et son aîné. Idimba revint aussitôt à la charge, mais ce fut Kunti qui l'accueillit. Il était indécent que des jeunes gens parlent eux-mêmes à une jeune fille en présence de leur mère.
Oh, mère bienheureuse, tu connais mieux que moi encore les prouesses de ton fils. Tu ne peux ignorer l'amour qui me dévore et qui me mènera à la mort s'il m'est refusé. Ne sois pas si cruel que d'exhiber sous mes yeux un tel fruit pour me le reprendre. De plus, vous avez besoin de moi. Jamais vous ne sortirez de ces bois, mais moi, je peux vous guider vers Hastinapura en quelques jours. »
Kunti resta pensive un instant, puis confia le choix à son aîné. Nul autre ne pouvait autoriser un de ses cadets à se marier avant lui. « Si Bhimasena te désire également, je permets vos épousailles, » proclama Yudhishthira après un moment. « Mais à deux conditions. Où que tu l'emmènes, vous reviendrez passer la nuit avec nous chaque jour, et vous vous séparerez lorsque tu te sentiras mère. » Idimba accepta allègrement ces termes, et Bhimasena y consentit également. Sans la moindre peine, la démone chargea l'imposant guerrier sur son dos et s'envola. Lorsque ses pieds touchèrent à nouveau le sol, les jeunes époux se trouvaient dans une clairière enchanteresse, au bord d'un lac d'une incroyable pureté, bordé d'amaryllis en fleurs. Des perles de rosée s'accrochaient à chaque brin d'herbe, et dans le chant des oiseaux, ils s'enlacèrent jusqu'à tomber dans la nuit. Alors, fidèle à sa promesse, Idimba revint vers les Pandava, les bras chargés de victuailles. Tous les jours, elle faisait découvrir de nouvelles merveilles à Bhimasena, et bientôt, elle se trouva enceinte. Quelques jours plus tard, elle accouchait d'un vigoureux petit garçon. 3 jours plus tard, il ressemblait déjà à un enfant de 7 ans. Après une semaine, il était un homme adulte, puissamment bâti, mais ses oreilles pendantes et ses crocs ne permettaient pas d'ignorer ses origines. Sa mère le nomma Ghatotkacha, car sa tête était ronde comme un pot d'eau. Mais son cœur était celui d'un homme, et il s'attacha tout de suite aux Pandava. Quand vint le temps des adieux, Idimba s'envola sans discuter, mais Ghatotkacha s'attarda un peu. Kunti lui donna alors sa bénédiction, lui assurant qu'il serait toujours un fils des Pandava. Il pouvait aller et faire sa vie. Kunti et ses fils prirent le chemin que leur avait indiqué Idimba avant de les quitter, et ils arrivèrent bientôt dans un petit village. Là, ils se firent passer pour des brahmanes. Toujours vêtus de leurs habits d'écorce, ils mendiaient leur pain quotidien et partageaient chaque soir leur aumône avec leur mère. Ils étaient installés dans le village depuis quelques jours lorsqu'une rumeur agita les gens des environs. Le roi Drupada mariait sa fille, et pour lui choisir un époux, il organisait un grand tournoi ouvert à tous les jeunes héros des environs. En réalité, le roi Drupada entretenait une rancune tenace envers Drona, le grand maître d'armes, et il n'espérait nul autre qu'Arjuna comme gendre, qui seul pourrait le venger. Mais les Pandava ignoraient cela, et restèrent indifférents aux discussions animées que les villageois entretenaient à ce sujet. Il fallut que le sage Vyasa, leur illustre ancêtre, passe les visiter pour qu'ils changent d'avis. Hidimba avait croisé le sage au fin fond de la forêt et lui avait raconté les mésaventures de ses descendants. Lorsqu'il arriva chez Kunti, il raconta aux 5 jeunes hommes l'histoire de la princesse. Le roi Drupada désirait plus que tout 2 enfants. Une fille, pour donner des héritiers à sa lignée, et un garçon, pour le venger de Drona. Mais le temps passait et le ventre de sa femme restait désespérément plat. Il finit par rassembler tous les brahmanes de son royaume et leur demanda d'organiser un grand rituel pour rendre grâce aux dieux. Pendant des jours, le pays marcha au rythme des préparatifs. On abattit un bois tout entier pour fournir assez d'arbres pour le brasier. Le soir venu, les brahmanes entonnèrent leurs chants et ont mis le feu à l'immense pile de bois. Les prières durèrent des heures durant, jusqu'à ce qu'enfin, au paroxysme des chants, alors que les voix s'élevaient désormais en un unique grondement, les serviteurs jettent le beurre clarifié dans les flammes. Une formidable colonne de feu jaillit vers le ciel, aussi brillante que le soleil de midi. Du feu émergea une forme, celle d'un guerrier armé de pied en cap. Drishtadyumna, le fils de Drupada, était né. Dès qu'il se fut avancé dans la foule, une autre forme se dessina dans le feu, plus fine et gracieuse. Les flammes retinrent un instant les cheveux de nuit de Draupadi, la plus belle des femmes, lorsqu'elle s'avança. Dieu, démon et mortel, serait à jamais fasciné par sa beauté, que nul autre n'égalerait jamais.
Voici, mes enfants, l'histoire de la naissance de Draupadi. Maintenant, l'un de vous se présentera à ce tournoi, gagnera sa main, et elle sera votre femme à tous.
À tous les 5 ? Interrogea Yudhishthira. Comment cela se pourrait-il, vénérable sage ? Nous ne pouvons concevoir un hymen à 5.
En d'autres temps, vivaient dans la forêt un ermite et sa fille. La jeune femme était belle, mais restait sans mari. Un jour, désespérée, elle entreprit des ascèses terribles en récitant le nom de Shiva et finit par attirer l'attention du plus grand des dieux. Lorsqu'il l'interrogea sur son désir, elle répondit qu'elle voulait un mari. Mais dans son impatience, elle répéta le vœu 5 fois. Shiva accepta et lui accorda 5 maris.
« 5 ? » répondit-elle. « Mais je n'en veux qu'un. »
« Oui. » Mais tu l'as demandé 5 fois. Tu auras donc 5 maris, et tu les auras dans la prochaine vie, où tu seras princesse.
Vyasa conclut là son récit. Pour les Pandava, sa parole était sacrée, et puisqu'il était de la volonté de Shiva lui-même que Draupadi ait 5 maris, ils ne virent plus aucune raison d'attendre. Le tournoi était une compétition d'archerie. Ils choisirent donc Arjuna pour y participer. À la capitale, tous les guerriers des royaumes voisins s'étaient rassemblés. Drupada était un puissant ami à avoir, et ses soldats étaient réputés dans toute l'Inde, sans même parler de la légendaire beauté de sa fille. Duryodhana et 22 de ses frères étaient présents, ainsi que Karna, le fils du soleil, et bien d'autres rois et princes. Les gradins qui entouraient toute la piste sur 5 étages contenaient péniblement la foule surexcitée. Drishtadyumna apparut alors pour expliquer les règles de la compétition. Au centre de la piste se trouvait un petit bassin rempli d'eau, d'où s'élevait un haut poteau. En son centre, un anneau de métal, et au sommet, un petit poisson de bois. Les participants devraient percer l'œil du poisson de leur flèche en ne regardant que son reflet dans l'eau et en traversant l'anneau. Le défi était déjà de taille en soi, mais tout à son dessein de n'accepter qu'Arjuna comme gendre, Drupada avait fait construire un arc si lourd
qu'aucun homme normal n'aurait pu le soulever, encore moins le bander. Les guerriers étaient tous rassemblés sur la piste désormais. Au sommet des gradins, le héros Krishna essayait de montrer leur neveu à son frère. Kunti était leur sœur, et lorsque les cinq fils de Pandu firent leur apparition, Krishna s'exclama. « Regarde, celui-là ne peut être qu'Arjuna. La compétition est jouée d'avance. » Les prétendants commencèrent à tenter leur chance, mais aucun n'arrivait même à soulever l'arc. Duryodhana et deux de ses frères parvinrent à le soulever, mais ils étaient loin de le bander. Karna alors s'avança. Il souleva sans peine l'arc, le banda, mais Draupadi clama alors « Je n'épouserai pas le fils d'un charretier. » Hormis Kunti, personne ne savait que Karna était le fils du soleil, pas même lui-même. Avec un sourire attristé, il regagna le groupe de guerriers et plus personne ne tenta sa chance. C'est à ce moment qu'Arjuna s'avança, toujours vêtu de son déguisement. Dans la foule, les brahmanes présents murmuraient avec colère. « Pour qui se prend-il ? Il va ridiculiser notre caste devant tous ses rois !» Mais Arjuna, fier comme un tigre, ramassa l'arc sans peine, le banda, et tout en regardant le reflet du poisson dans l'eau, décocha une, deux, trois, quatre, cinq flèches qui se fichèrent toutes dans l'œil minuscule. La foule explosa en hurrah, les brahmanes plus encore que les autres. Draupadi descendit sur la piste pour déposer un collier de fleurs blanches au cou d'Arjuna et le reconnaître comme mari. Du côté des guerriers, en revanche, l'indignation grondait. On criait que le roi Drupada avait truqué le concours, que la participation de ce brahman les insultait tous. Hors d'eux-mêmes, les rois et princes rassemblés s'approchaient d'Arjuna, prêts à reprendre Draupadi par la force. Un tourbillon les balaya alors. Exactement au même instant, Arjuna avait décoché un barrage de flèches, et Bhimasena, déracinant un gros arbre, avait surgi devant son frère pour le protéger. Face à ce spectacle, les prétendants fuirent sans demander leur reste. Les Pandavas emportèrent alors Draupadi et se hâtèrent de rentrer chez eux. En arrivant, ils lancèrent à Kunti. « Mère, nous te ramenons l'aumône du jour !» Et celle-ci répondit « Eh bien, partagez-la entre vous cinq !» Et ainsi s'accomplirent les paroles de Vyasa, qui voulait que Draupadi devienne leur femme à tous les cinq. Il fut décidé qu'elle épouserait Yudhishthira en premier, car il était l'aîné, et que chaque année, elle deviendrait l'épouse du frère suivant. L'histoire veut que Draupadi ait été ravie de cet arrangement, et qu'elle redevienne jeune fille tous les matins. Rapidement, le bruit de l'union de Draupadi au fils de Pandu se répandit, et Duryodhana et ses frères prirent peur. Encouragés par Shakuni, leur oncle maternel qui détestait les Pandavas, ils allèrent voir leur père pour plaider leur cause. Dhritarashtra médita sur les plaintes de ses fils, puis convoqua ses plus fidèles conseillers. Drona, le maître d'armes, Vidura, son sage frère, et l'illustre ancêtre Bhishma. Celui-ci prit la parole en premier et s'adressa d'abord aux Kaurava, les fils du roi. Je n'aime guère ces querelles entre cousins. Les Pandavas et les Kaurava ont à mes yeux la même valeur, et cette lutte est futile. Vous clamez que la succession vous revient, mais les Pandavas ont autant d'arguments que vous, voire de meilleurs. Séparez le royaume en deux, et offrez-leur la moitié. Vous êtes tous les descendants du grand Bharata, comportez-vous comme tels, ou le déshonneur sera votre seul héritage. » Il se tourna alors vers Dhritarashtra. « Et toi, ô roi, un guerrier, ne vis que tant que vit son nom. Lors de l'incendie de la maison de Lac, le peuple t'a blâmé toi, pas l'architecte. Ne ternis pas ton honneur davantage. » Drona acquiesça, et Vidura ajouta « Les Pandavas ont de puissants alliés. S'ils le voulaient, ils n'auraient pas de mal à prendre par la force ce qui leur revient. Krishna se tient à leur côté, et la victoire se tient aux côtés de Krishna. » Dhritarashtra se rendit à l'avis de ses conseillers et envoya Vidura chercher leur neveu. Un peuple en liesse accueillit leur retour, et ils reçurent la moitié du royaume, tandis que le roi gardait pour lui l'autre moitié et la capitale Hastinapura. Les cinq frères allèrent alors s'installer sur leur terre. Une fois là-bas, ils invoquèrent Indra, le roi des dieux, qui ordonna à l'architecte céleste de leur bâtir une capitale rivalisant avec les cités divines. Ce dernier se surpassa, et en quelques jours seulement, la cité d'Indraprastha sortit du sol. 32 portes ouvragées ornaient ses remparts, dont les tours s'élevaient jusqu'aux nuages. Les ateliers, les boutiques et surtout la magnificence du palais répandirent la gloire de la cité dans tous les royaumes de l'Inde. De partout, des savants, prêtres, commerçants affluèrent, attirés par la réputation des cinq frères. Gouvernée par Yudhishthira, la capitale prospéra comme aucune cité des humains, et le royaume tout entier fit de même. Mais la félicité des cinq frères ne devait pas durer. À Hastinapura, Duryodhana enrageait de voir ainsi rayonner la gloire des Pandava. Il chercha conseil auprès de son oncle, Shakuni, qui lui proposa un plan pour récupérer le royaume des Pandava. En tant que guerrier, Yudhishthira avait fait le serment de ne jamais refuser un défi. Seul un idiot provoquerait un des fils de Pandu par les armes, mais il y avait de nombreux types de duels. Yudhishthira était vertueux et inexpérimenté. Shakuni le provoquerait dans une partie de dés, et il perdrait tout. Duryodhana accepta immédiatement et envoya des messagers à Indraprastha. Yudhishthira n'était pas dupe, mais comme prévu par Shakuni, il ne put refuser le défi. Partie après partie, l'aîné des Pandava perdait face aux fourberies de Shakuni. Il perdit ses bijoux, le trésor de sa capitale, puis son royaume, ses frères, et finalement même Draupadi. Les Pandava fulminaient. Kunti, les conseillers de Dhritarashtra et même sa propre femme enjoignaient le roi aveugle à reprendre le contrôle sur ses fils. Mais rien n'y faisait. Duryodhana agissait à sa guise. L'un de ses frères agrippa alors Draupadi et arracha l'étoffe qui l'habillait, clamant qu'elle n'était plus qu'une esclave. Duryodhana la fit asseoir sur sa cuisse droite en signe de domination. Bhimasena, en rage, hurla qu'il briserait les crânes des 99 fils de Dhritarashtra et boirait leur sang, qu'il briserait la cuisse où Duryodhana avait fait s'asseoir Draupadi. La voix de Bhishma tonna alors.
« Vois, ô roi, le salaire de ta faiblesse. La lignée de Bharata se déchire par ta faute. Reprends le contrôle de tes fils. »
Enfin, le roi aveugle entendit raison. Il voulut annuler la partie et séparer, mais Shakuni et Duryodhana plaidèrent si bien qu'il ne put se résoudre à le faire entièrement. Il fut décidé que pendant 12 ans, les Pandava partiraient en exil avec leurs femmes. Leur royaume reviendrait entre-temps à Duryodhana et ils ne devraient pas y être vus jusqu'au terme de l'exil. Après 12 ans, ils devraient encore passer une année déguisée, et si un serviteur de Duryodhana les reconnaissait alors, ils repartiraient pour 12 autres années d'exil. Les conseillers du roi se lamentaient, mais Yudhishthira accepta sa volonté humblement et entraîna ses frères. Ainsi commença l'exil des Pandava. Dans le folklore philippin, il est bon de demander la permission lorsqu'on approche d'une zone forestière, et d'ensuite la traverser sans trop faire de bruit. On évite ainsi de s'attirer les foudres du Tikbalang, un esprit qui revêt la forme d'un cheval anthropomorphe, aux jambes si longues que ses genoux dépassent sa tête lorsqu'il s'assied. Il peut jouer des tours aux humains, comme les faire retourner au même point de départ, quelle que soit la direction qu'ils prennent. Une manière d'éviter ça est de porter ses vêtements à l'envers, pour faire croire au Tikbalang qu'on rebrousse chemin. Pour les Tagalogs, cependant, il s'agit d'un esprit bienveillant, protecteur des royaumes élémentaires, et il se contente en réalité d'éloigner les humains mal intentionnés. Le Mahabharata est passionnant pour bien des raisons, mais l'une d'elles est son ancienneté. Il remonte à la fin de l'époque védique, et a donc près de 3000 ans. À l'époque, le système social et éthique de la péninsule indienne, qui reposait sur les Védas et l'hindouisme, commence à être remis en question par la naissance du bouddhisme. Le Mahabharata est le dernier témoignage de toute une société confrontée au changement de ses mœurs, et à leur disparition progressive. On voit l'ancien code moral dans l'éthique des guerriers, leurs règles reposant sur l'honneur et le respect des traditions, et leur place prédominante dans la société. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Biljana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on verra comment se passe un exil lorsqu'on est les enfants des dieux. Et on aura droit à une séquence d'entraînement très shonen.